De retour à l'émission Plan de match, édition de ce jeudi 26 janvier 2017. Louis-Philippe Morin est avec moi, André Champagne. Louis, tu nous as fait découvrir un sport de plongeon de haut niveau il y a quelques instants, et là on va enchaîner avec un autre sport que j'apprécie, c'est-à-dire que j'ai apprécié particulièrement quand j'étais petit.
OK.
La lutte.
C'est qui ton lutteur préféré?
Hulk Hogan.
Ah, évidemment.
Ouais, je l'ai vu lutter au Forum de Montréal.
Ah,
oui?
Ah, wow.
Tiens, c'est mon tour d'avoir des vieilles affaires.
Vas-y donc, voir.
Forum de Montréal, on devait être en 1988 à peu près, contre Bam Bam Bigelow.
Wow.
Qui ça sautait...
Bam Bam Bigelow.
Lui...
C'est lui qui mangeait les coins de, ring.
Ça se peut, okay. Effectivement. Maintenant, ils ont fait des émissions de télé-réalité avec du monde
comme
ça. Il y avait le fameux suit avec des flammes, là.
OK.
Et puis, lui, il sautait de la deuxième corde. T'sais, il se rendait pas à troisième.
Pas troisième, OK. Puis ça, c'était dans le temps où Hulk Hogan, c'était le Hulkmania, là.
Oui,
tout le monde
trippait
sur Hulk Hogan. Il déchirait son chandail.
Il était gentil dans ce temps-là.
Il est-tu venu méchant après?
Oh oui, okay, c'est le teint de la moustache. Puis,
OK.
En tout cas.
Moi, j'ai tout le temps connu gentil. Okay. Mais c'était aussi spectaculaire que le plongeon de haut vol parfois.
Oui.
Des athlètes qui font ça. Écoute. Et ça m'amène à te parler de Lou Fisto, qui est une sorelloise, une lutteuse sorelloise, dont Luc Denoncourt a déjà fait de la lutte avec elle.
Okay.
Au moment où il y avait de la lutte ici à Sorel. Et elle est assez bonne, elle... qui est parti pour les États-Unis,
okay.
Parce que ici il n'y avait pas de filles qui faisaient de la lutte. Il y avait juste des gars. Fait qu'elle se battait contre des gars. C'est assez solide, là. Je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube. Il y en a, là. Elle se battait contre des gars et était très bonne. Donc, elle est partie aux États-Unis pour essayer de gagner sa vie avec ça. Elle est dans un circuit inférieur de la WWE. Et Luc va nous le dire, là, exactement c'est quoi les noms des circuits.
Okay.
Mais cette fille-là, gagne sa vie ou une partie de sa vie avec ça. Mmh. Elle travaille aussi, mais c'est des combats très très spectaculaires. Et c'est pas des, tu sais, parce qu'à un moment donné il y a eu la phase les popounes font de la lutte.
Oui.
Puis là c'était se tirer les cheveux ou de quoi.
Ouais.
Là c'est plus dans le spectaculaire et l'acrobatique.
Ok. Parce qu'au niveau c'est ça, au niveau sportif c'était comme une chance qui était belle. T'sais.
C'est ça.
Okay.
Donc Lou Fisto qui est une lutteuse sorelloise, on s'en va l'écouter avec Luc Denoncourt.
En conversation. Avec Luc Denoncourt. Salut Luc.
Bonjour.
J'essaie de rendre ça dramatique. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est pas trop dramatique, mais quelque chose qui te passionne. On va parler de lutte.
Ouais.
Parce que il y a, tu me parlais d'une championne sorelloise.
Oui. Une fille de la région dont le vrai nom est Geneviève Goulet et dont le nom de lutte est The Hounded Hole Lou Fisto.
De quoi?
The Hounded Hole. J'espère que je le dis comme faut.
Ok.
Lou Fisto.
Lou Fisto.
Et elle lutte aux États-Unis depuis. Elle lutte aussi au Québec, mais elle lutte aux États-Unis depuis déjà plusieurs années. Et la semaine dernière, elle a remporté le championnat de la fédération Shine. La fédération Shine, c'est une des deux plus grandes fédérations de lutte consacrées à la lutte féminine aux États-Unis.
Est-ce que c'est l'espèce de ligue américaine de la WWE?
Ben, c'est pour les filles, en fait. C'est deux. Il y a deux ligues de filles. Il y a les Shimmer et Shine. C'est les deux top. Fédération de,
okay.
de, pour les femmes aux États-Unis. Et la WWE souvent regarde dans ces organisations-là, évidemment. Alors, ça s'est fait en Floride, ce combat-là, à Iber City, en Floride. Le titre était vacant, donc elle est arrivée pour réclamer le titre. La direction a décidé de faire un combat à trois. Alors, c'était Lou Fisto, Allison Key et Mercedes Martinez. Et c'est Lou Fisto qui a gagné le titre pour la première fois de sa carrière.
Est-ce que ça lui donne la chance de monter un niveau supérieur?
Ben... Shine est associé avec une fédération masculine qui s'appelle Evolve aux États-Unis. Et Evolve, c'est un peu un camp pour la WWE. Souvent, ils vont faire entraîner des gars-là puis les monter tranquillement. Il y a des rumeurs actuellement qu'à la WWE, il y aurait un gros tournoi de femmes qui s'en viendrait bientôt. On ne sait pas encore s'ils vont prendre les femmes qui sont déjà à la WWE et dans les mineurs ou s'ils vont aller chercher des femmes un peu partout. Si c'est le cas, ben peut-être qu'elle aurait des chances.
Elle a quel âge?
Elle l'a dans la trentaine, okay. Parce qu'elle a 20 ans de carrière cette année. Elle a commencé ici au gymnase de Sorel-Tracy. Elle avait une école de lutte à l'époque en 97, donc ça fait 20 ans. Puis elle a monté les rangs tranquillement. Elle a fait son nom parce que au départ, il y avait pas énormément de lutte féminine dans le monde.
Ouais.
Et c'était surtout des divas qu'on engageait, donc des filles cute qui savaient pas lutter, puis on leur faisait des combats. Là, depuis quelques années, ça s'est développé. Alors ici, pour faire son chemin, elle luttait contre des gars. Et c'est comme ça qu'elle a fait son chemin, parce qu'elle faisait des combats très, très hard, très, très extrêmes, avec des tables, avec des punaises, avec des chaises.
Ah,
elle a vu souvent en sang, en cicatrices et tout ça. Alors, elle a fait son nom tranquillement aux États-Unis. Elle a lutté contre beaucoup d'anciens lutteurs de la WWE ou sur les mêmes cartes que ces gars-là. Alors, tranquillement, elle a fait son chemin un peu partout. Elle a lutté au Japon, elle a lutté un petit peu partout sur la planète.
Donc, elle gagne sa vie complètement avec ça?
Non, elle a un autre emploi, parce que la lutte indépendante, je pense que c'est assez difficile de gagner sa vie à temps plein avec ça. Donc, elle a un autre emploi, mais elle en fait en grande partie. D'ailleurs, je regardais rapidement sur son site Internet son calendrier, et là, les prochaines semaines, elle a des combats à Somerville au Massachusetts, Worcester, Massachusetts, Township, New Jersey, Providence, Rhode Island, et elle retourne à Shine le 10 mars prochain, probablement pour défendre sa ceinture, et ça, c'est toujours à Iber City, en Floride.
OK, et ça, si jamais elle arrive en WWE, ça ferait comme un contrepoint au champion québécois qu'on a présentement?
Ouais, ça serait une autre québécoise à la WWE. Ça serait
Kevin Owens, c'est ça?
Kevin Owens, ouais.
Et comment ça va pour Kevin Owens?
Ben là, c'est le Royal Rumble dimanche qui s'en vient. Alors, il va défendre sa ceinture. Est-ce qu'il va la garder?
C'est quoi ton feeling?
Ben moi, je pense qu'il va la garder. Okay. Je pense qu'on va vouloir se rendre jusqu'à WrestleMania avec Kevin Owens. Et si c'est le cas, ben ça va être la première fois qu'un Québécois va défendre un championnat mondial à WrestleMania. Alors ça serait assez extraordinaire. Et là, il y avait des rumeurs que ça pourrait être contre Sami Zayn, qui est un autre Québécois.
Okay.
Alors ça serait encore plus une première d'avoir deux Québécois dans un des combats principaux de WrestleMania qui a lieu au mois d'avril, je pense. Alors on va se croiser les doigts, ce serait le fun que les Québécois rayonnent de plus en plus, et pour Lucisto, ben ce serait le fun, mais sinon elle fait très bien son parcours sur la scène.
Il y a moyen de le suivre, tu disais, il y a un site internet qui lui
est dédié. Un site internet, on peut même aller, si on veut, télécharger légalement, donc il y a des légers frais,
des combats complets. Okay.
Donc, pour 2$, 3$, il y a des combats qu'on peut voir, dont contre les Dudley Boys qui ont été à la WWE. Il y a des combats contre des gars et il y a des combats contre des filles. Et je disais tout à l'heure qu'elle n'avait pas beaucoup au Québec quand elle a commencé, mais avec le temps, elle a développé et entraîné des filles au Québec. Et là, il y a des circuits, beaucoup plus de filles au Québec qui luttent. Et aux États-Unis, ben, il y a des circuits carrément consacrés à la lutte féminine. Puis c'est impressionnant à voir, là. On est loin de ce qu'on se souvient dans les années 80 avec les filles qui se tiraient les cheveux. Là. C'est de la lutte de qualité, puis parfois, et très souvent, meilleure
plus que spectaculaire la lutte masculine. Ouais. Okay.
Alors, merci à Luc Denoncourt pour sa grande sagesse face à la lutte. C'est un gars qui suit ça intensément. Et il va venir nous reparler, entre autres, du Royal Rumble et d'une autre affaire, parce que je sais qu'il y a un Québécois qui s'appelle Kevin Owens, qui est champion du monde pour l'instant.
Mm-hmm.
Et selon Luc, il le sera encore pour quelques temps. Donc, Luc va venir nous jaser de ça très bientôt.
As-tu une époque lutte, toi? Ou...
Ben, moi, j'écoutais la lutte quand j'étais jeune, le dimanche, mais c'était plus Dino Bravo. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Dino Brito.
Ouais. Tarzan Lamotine Tyler.
Oui. Gilles le Fiche Poisson. Il s'appelait comme ça pour de vrai?
Gilles le Fiche Poisson.
Gilles le Fiche Poisson.
Okay.
J'écoutais la lutte avec mon frère. On reproduisait pas ce qu'il faisait parce qu'il se donnait des coups de chaise puis des coups de je sais pas quoi sur la tête.
Okay.
Ma mère voulait pas qu'on écoute la lutte, on l'écoutait en cachette.
Ouais. Non, moi j'ai vraiment trippé solide, là.
Ah oui?
J'ai dit tantôt, j'allais voir ça. Tu sais, j'étais pas, avant d'aller au forum voir Hulk Hogan, là, j'étais pas sorti de ma rue, je pense, tu sais.
Et t'as été là avec ton père,
ma mère,
avec ta mère, pour aller voir de la lutte.
Oui, ben, qui était monoparentale. Alors, je pense que j'avais un ami, un petit copain là du quartier qui est devenu avec moi. Sincèrement,
moi, je pense à ta mère qui a dû faire un effort pour aller voir Hulk Hogan.
Mais sincèrement, là, j'ai plus vraiment de souvenirs de ça parce que je pense que j'étais en transe.
Ah oui, tant que ça.
Je devais être... D'ailleurs, il faudrait que je reparle à ma mère de ça, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ça devait être pas mal l'équivalent des filles qui vont voir les Backstreet Boys ou... c'est dans le temps
donc, pendant
Michael
trois
Jackson.
Heures, tu te criais comme
j'étais
un
en
fou.
Hystérie totale. Ouais. Ah ouais, je me souviens. J'avais pris le métro.
Au moins, est-ce que c'est Hulk Hogan qui avait gagné?
Ben oui.
OK. Wow. Parce que des fois il perdait.
Dans mon temps, il perdait jamais.
OK, jamais.
Le gentil gagnait tout le temps.
Puis là, il finissait tout le temps par... on pensait qu'il était mort, on pensait qu'il allait pas revenir, puis là, tout à coup, la foule...
Ses adversaires, Hulk Hogan, avaient tout le temps le don d'y donner un coup de poing au moment où il était en train de mourir, mais là, ça le réveillait.
Ouais.
Mais tu sais, après 12 combats, il me semble qu'il aurait dû deviner, là, mais en tout cas...
Donc, il y avait Hulk Hogan, il y en avait-tu d'autres? Est-ce que tu te rappelles des autres?
Ok, de
juste
rien.
Hulk Hogan, c'était en place.
Ah ouais, c'était vraiment le mien, là. J'avais des petites figurines, j'avais... Ah, c'était mon idole.
Wow.
Ah,
Est-ce qu'on peut changer de sujet?
Oui, allons-y. De quoi veux-tu m'entretenir?
Ben, je parlerai de basketball un petit peu.
Vas-y.
Parce que tu sais que l'an prochain, il va y avoir des publicités. Ben, il pourrait y avoir des publicités sur les chandails dans la NBA.
C'est vrai?
Que dis-je? Sur les camisoles.
OK.
Parce que ça fait partie de la nouvelle convention collective. Il y a déjà deux équipes qui avaient annoncé qu'elles allaient avoir des publicités. On parle de 2.5 pouces par 2.5 pouces, là, tu sais, genre le petit logo là, ouais, dans le coin, là où il y a le C du capitaine, mettons, là, ça devrait ressembler à ça. Les 76ers de Philadelphie et puis les Kings de Sacramento. Et
c'est
là, ben,
commandité par qui?
Ben là, on apprend que les Celtics allaient être commandités par General Electric. Et faut dire que les Celtics, c'est une des plus grandes dynasties, ben oui, dans le sport professionnel nord-américain. Et qui plus est, ben, GE va déménager sa maison mère à Boston durant les prochains mois, là. Donc, association normale.
Je sais pas si on va faire ça au hockey à un moment donné.
Ça se discute, hein?
Ouais.
Ça se discute. Il y en a sur les chandails de d'entraînement.
Oui, t'as raison, c'est vrai.
Une chaîne de restauration rapide, je pense, ouais, en ce moment là. Mais on est à l'abri de ça. En Amérique du Nord, c'est pas présent. En Europe, sur les chandails de soccer, ouais, c'est là depuis à peu près toujours.
Les chandails de hockey aussi là, oui, les ligues européennes.
Ça c'est terrible.
Ouais,
c'est terrible.
En Russie, dans la KHL, c'est des noms de compagnies au complet là, le logo là.
Ouais.
Et sur les poteaux des buts, il y a aussi des publicités. On n'hésite pas à mettre de la publicité partout.
Peut-être ce qu'on a à date, c'est dans le soccer.
Oui,
c'est dans la
MLS. Même là, tu sais, l'Impact qui est commandité par Saputo, on peut pas dire que Saputo est marqué en gros sur leur chandail nulle part.
Non, mais ben c'est BMO.
BMO, logo, pardon, BMO. Oui, t'as raison.
C'est ça.
Oui.
Mais tu sais, il y a le logo, puis on dirait qu'au soccer, on le sait, on était habitué à ça pendant longtemps. Là, donc voilà, ça va changer, ça risque de changer. Mais tu sais, à terme, là, dans 50 ans, mettons, on va être rendu où là-dedans, je sais pas.
Je sais pas.
Même dans la Ligue nationale de hockey... Pour l'instant, on résiste, là.
Ouais,
imagines-tu un peu le... Mais les chandails vont changer l'an prochain, là. C'est Adidas qui va faire les chandails.
Oui, puis t'as entendu parler du fait qu'ils veulent pas produire le troisième chandail. Ils disent aux équipes, on veut juste produire deux chandails. Je sais pas. Peut-être parce que, justement, il s'en vient des trucs comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir des publicités sur les chandails. OK. Ouais. Est-ce qu'on s'en va en pause?
Je pense bien.
On va aller en pause, et on revient ensuite parler avec le directeur gérant des éperviers de Sorel-Tracy, Christian Deschênes, avec qui t'as parlé justement de l'échange qui a ébranlé le petit monde de Sorel.
Ben ouais, tu fais bien de le dire parce que c'est une grosse transaction et surtout, il n'y en a pas eu tant que ça. Ça n'a pas été la folie de la date limite des transactions dans la Ligue nord-américaine de hockey,
c'est vrai.
Christian Deschênes a réussi à faire bouger une équipe. Alors, on va parler de ça avec lui dans quelques instants à Plan de match.